montrer comment notre mission dans ce monde en tant que paroisse, hein, c'est pour ça qu'on a présenté des groupes, c'est pour ça qu'on a parlé de projets, c'est pour ça qu'on a parlé aussi de ce retour de hier, ça fait tout partie de notre mission. Hein, c'est un peu l'Église qui sort finalement. Ça fait penser à un chant qu'Exo avait écrit à l'époque, c'était en anglais, « Let's take church out into the street ». Il y a un peu le côté, l'Église a tendance à être à l'intérieur, mais sortir et aller vivre et partager notre mission. Mais cette mission est aussi individuelle, on a tous des missions personnelles. Et ce soir, on va aussi entendre un témoignage de Christine qui va nous parler de sa formation en accompagnement spirituel qu'elle est en train de vivre. Donc, ce sera aussi l'occasion d'entendre quelle est sa mission à ce niveau-là. Je trouve intéressant aussi de voir comment Dieu nous conduit aussi individuellement dans nos formations, en l'occurrence ici pour Christine. Et au préalable, je vais vous apporter un message qui sera un peu plus court que d'habitude, qui nous parle de la volonté de Dieu. C'est un terme qui est abondamment utilisé, abondamment aussi dans la Bible parlé. Jésus en parle beaucoup, « Je ne fais rien sans que je sais le Père », mais dit donc Jésus avait une dépendance à la volonté du Père extraordinaire, forte. Lui-même a été le premier à mettre ça en évidence. Et puis aussi dans nos prières, je ne crois pas qu'il y a une fois un temps de prière sans qu'on ne dise pas « Nous voulons connaître ta volonté ». Ça peut être la première chose. On peut aussi dire « Nous voulons faire ta volonté ». Ce qui est des fois un peu deux choses. On peut connaître la volonté de Dieu, puis une fois qu'on la connaît, bon, je la fais ou je ne la fais pas. On a encore le choix. Mais je pense qu'avant de faire la volonté de Dieu, il est nécessaire de la comprendre. C'est des fois ça la difficulté. Montre-nous ta volonté, mais est-ce qu'on la comprend et de se l'approprier? Au final, d'y entrer. On parle des fois de se soumettre à la volonté de Dieu. En tout cas, moi, j'ai des fois le besoin d'un peu de temps de comprendre ce que Dieu veut et puis d'y adhérer et finalement de me soumettre à cette volonté. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est si simple et qui demande aussi un processus et un programme. Et puis ce soir, j'aimerais à travers un passage montrer à quoi ressemble cette volonté. Quels sont un peu ces signes distinctifs à travers un texte bien connu dans Romains 12 qui nous parle de cette volonté de Dieu. Et on va voir que c'est un processus de transformation. Hein, et qui se confrontent finalement, la problématique c'est qu'il y a notre volonté et à la volonté de Dieu. Et on a un peu tendance à les opposer parfois, respectivement à penser qu'il y a la volonté de Dieu parfaite, et puis que notre volonté elle n'est pas bonne par définition. Et j'ai envie de dire, il faut peut-être un petit peu sortir de ce paradigme. Ça fait penser un peu à ce qu'on va voir aussi la semaine prochaine dans les groupes pour les 100 jours, où on parle de la bonté de Dieu et du mal, hein, par exemple. Et on a tendance à opposer, le monde fait ça. Dieu est bon et il y a le mal. Donc si Dieu était... Pourquoi la question un peu de bistrot, comme va dire Thierry Juvet, si Dieu est bon, pourquoi il y a le mal? Et ça, c'est quelque chose qui est venu, mais qui n'est pas juste en soi, parce que Dieu est fondamentalement bon. La volonté de Dieu est fondamentalement bonne. Et il n'y a pas quelque chose... Et puis notre volonté, elle doit s'aligner. Alors ça, c'est notre... Mais ça ne veut pas forcément dire que notre volonté est par définition mauvaise. Vous voyez un peu ce que je veux dire. On a des fois tendance un peu à dire OK, il y a un peu blanc et noir comme ça. Et je pense que c'est plutôt des fois gris, ou respectivement parfois bien clair, parfois c'est pas clair du tout, mais d'essayer de l'appréhender. Et on va lire ensemble un texte qui se trouve justement dans Romains 12. Ça marche, oui. Romains 12, les versets 1 à 2. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Avant d'en arriver là, ce chapitre 12, il y a tout un texte avant de Paul aux Romains. Il y a cette première section qui nous... Donc ici, dans une section qui commence par le titre de « Nouveaux comportements ». Mais avant de ça, il y a une première section où il parle de la justice obtenue par la foi. Je le cite parce que c'est important de comprendre. Paul en arrive finalement à dire ça, mais après avoir dit que... Je lis Romains 3, verset 28. « Nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. » Et aussi un autre verset qui est un peu plus loin, chapitre 5, verset 1. Ainsi, nous sommes déclarés justes sur la base de la foi. Nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, il y a tout un passage sur Israël et les non-juifs dans le plan de Dieu. Alors, je sais que c'est souvent là aussi que des textes, notamment Stephen Park, quand il parle un peu le plan de Dieu pour Israël et pour nous, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui est similaire. Mais ce qui est dit clairement au chapitre 11, verset 32, « Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire grâce à tous. » Tous les hommes, grâce à tous. Et un verset qui termine ce chapitre 11, c'est « De lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » Donc c'est sur la base de cette justification par la foi et non par les œuvres. Parce que finalement, on pourrait faire des choses qu'est-ce qu'on doit faire ? Non, on est justifié par la foi, d'un principe universel que tous les hommes ont besoin de la grâce de Dieu pour sortir de cet enfermement, comme nous dit Paul ici. Et c'est sur la base de ça que Paul vient et nous dit « Maintenant, je vous explique un peu les nouveaux comportements. » S'il a mis au début ça, voilà, tu dis « Ok, ben, pour avoir des bons comportements, je dois faire ça, 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 ça. Puis après, ça sera bon peut-être. » Mais il commence justifié par la foi, sans les œuvres, et qu'on a tous besoin de la grâce de Dieu. Donc, ce n'est pas des règles. Hein. Et j'aime bien des fois la tendance, hein, quand il y a des choses un peu réglementaires dans la Bible, ok, je les applique, tac, 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 puis à la fin, ça marche. Ah oui, il y a des règles universelles hein, qui sont de dire « aime ton prochain comme toi-même ». Oui, bien sûr, ça. Mais après, quand c'est plus spécifique, comme ici, on va le voir, de dire d'abord « on est justifié par la foi ». Nous sommes en paix avec Dieu. On n'a pas besoin de... On est en paix avec Dieu, simplement dans ce qu'on est. On a foi en Dieu, on est juste par la foi. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, c'est grâce à Dieu, ce n'est pas grâce à nos actions. En d'autres termes, ce n'est pas un mérite, ce n'est pas un cadeau. Nous avons la faveur de Dieu qui aime tout être humain de manière inconditionnelle. Je dis bien tout être humain, nous on a découvert cette grâce inconditionnelle par Jésus, on est sauvé, mais cet amour inconditionnel, il est pour tous les humains, pour tout homme. Je reviens, honorer tout homme. Hein, on ne nous a pas dit la formation, honorer tout homme, en particulier celui, votre frère et votre sœur. Non, honorer tout homme, point. Donc c'est aussi un peu ça, la grâce de Dieu, elle est pour chacun. Des fois c'est important de se le rappeler ça, parce qu'on a tendance des fois à faire un peu des catégories à nous et à les autres. Mais nous, ce qu'on a découvert, c'est un pur cadeau. Et les autres, on a envie qu'ils découvrent ce pur cadeau. Mais ils sont aimés la même chose que nous. Ensuite, Paul vient avec ses « je vous encourage ». Et il commence « je vous encourage donc hein, ». Donc on voit bien ce lien avec ce qui précède, en particulier ce dernier verset. « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui soit la gloire ». Dans tous les siècles. Amen. Et c'est là qu'il vient. Je vous encourage donc. Et quand on est encouragé, hein, quand on est découragé, on a besoin d'être encouragé. Ici, j'espère que ce passage soit aussi un encouragement pour nous de ce que Paul nous dit. Et le premier encouragement, il est soutenu par les compassions de Dieu. Hein. Je vous encourage par les compassions de Dieu. Dieu a compassion de nous. Compatir, c'est souffrir avec hein, aussi. Donc, il souffre avec nous, car ici, il y a quelque chose qui demande un sacrifice. Ici, en l'occurrence, d'offrir son corps en sacrifice. Donc, pas seulement ses pensées, on a eu un message pas longtemps de Liliane sur le corps, mais aussi offrir pas seulement, conceptuellement, voilà, je t'offre dans mes pensées, mais je te donne mon corps. Tout ce que je suis aujourd'hui, mon âme, mon corps, mon être intérieur, je te le donne. Et les Juifs de l'époque hein, comprenaient bien cette image du sacrifice. Et là, Paul, quand il leur dit « Vous n'avez plus besoin de sacrifier des animaux, ce n'est plus nécessaire, mais simplement d'offrir vous. Vous n'avez plus besoin d'offrir vos possessions, vos animaux, de la nourriture, des parfums. C'est vous que je demande, votre sacrifice vivant. » Donc c'est ça ce que Dieu nous demande à tous, hein, pas seulement aux Juifs, mais à tous, d'offrir ce corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Donc ce que je suis ici, je le donne à Dieu, je l'exprime finalement. Ce qu'on a fait tout à l'heure dans la louange, c'est une façon de dire, ben, je t'exprime, je prends du temps avec mon corps d'être là, en pas seulement penser, moi aussi avec tout mon corps, c'est pour ça qu'on lève peut-être les mains, peut-être qu'on a, chanté, donc on a exprimé avec notre corps aussi ce culte raisonnable à Dieu. Le mot raisonnable a attiré mon attention. Ça veut dire quoi, un culte raisonnable? C'est un peu bizarre, ça. La raison, là-dedans. Est-ce qu'il y a un culte pas raisonnable? Donc, ça vient du grec logikos. Hein, donc, logique qu'on voit un peu derrière. Il y a quelque chose de logique. Mais ce qui est intéressant, ce terme, il est utilisé à deux reprises sous cette forme-là dans la Bible, dans ce verset, mais aussi dans 2 Pierre 2, 2, par exemple, c'est traduit par la parole. Dans le passage, et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. C'est pour ça aussi, dans certaines traductions, notamment la Nouvelle Française Courant, ils ont traduit ce passage, c'est là le véritable culte conforme à la parole de Dieu. C'est là le véritable culte conforme à la parole de Dieu. Et j'aime bien ces deux éléments, parce que finalement, notre culte, ce qu'on offre à Dieu, ce sacrifice vivant, sain et agréable, c'est aussi bien un choix qu'on fait basé sur notre raison. Et la raison, c'est quoi, hein, selon le dictionnaire? La faculté qui permet à l'être humain de connaître, juger, agir conformément à des principes. À notre raison nous fait offrir notre corps. Mais c'est aussi une réponse à la parole de Dieu ou une conséquence de l'action de la parole de Dieu en nous. Le deuxième encouragement, il y a plusieurs, les traductions sont assez différentes l'une de l'autre. Et j'ai fait un peu ma cinquième traduction en faisant un peu un mix des quatre traductions. Donc c'est un peu ma version sur et qui dit « Ne prenez pas les habitudes de ce monde-ci, mais laissez Dieu vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. » J'ai bien ce terme « Ne prenez pas les habitudes de ce monde-ci. » Donc dans le monde dans lequel on vit, il y a certaines habitudes qu'on pourrait prendre, qu'on pourrait facilement prendre, mais laissez Dieu vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Le mot grec traduit par « renouvellement » est utilisé dans un seul autre verset, qui est dans Tite 3, les versets 4 à 5. « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice, on revient ici, hein, que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. » C'est la deuxième endroit où on parle de renouvellement par rapport au Saint-Esprit. Donc on voit ici clairement ce travail de renouvellement, c'est le Saint-Esprit qui le fait en nous. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, ce n'est pas de nous. Après le bain de la nouvelle naissance, au début qu'on marche avec Dieu, il y a le travail du Saint-Esprit qui continue en nous pour nous transformer. Et on a vu dans nos rencontres sur la culture de l'honneur que le changement nécessite de prendre du recul par rapport à des habitudes du monde dans lequel on vit et de nous laisser transformer par ce renouvellement de l'intelligence. À gauche, hein, vous avez vous souvenez de à gauche. On a envie de rouler à droite, à gauche. C'est Saint-Esprit, je pense, qui nous dit ça. Ces derniers temps, j'essaie d'exercer un peu ce à gauche. Alors moi, ce n'était pas la conduite, heureusement. Mais c'était un peu, le Seigneur nous disait, fais-moi confiance. C'est un peu, fais-moi confiance, ok? Je te fais confiance, fais-moi confiance, ok? Donc c'est un peu comme si on doit intégrer des fois des choses. Quand on a envie de dire, mais qu'est-ce qui va se passer? Voilà, etc. Fais-moi confiance. Alors, c'était une façon de dire, et ça prend du temps, c'est pas juste une fois, c'est des fois des habitudes à prendre, un peu des réflexes, j'ai envie de dire, comment on réagit face à des incertitudes? Comment on réagit quand ça va pas du tout comme on veut? Il y a pas mal de réactions. Et si on peut développer une réaction qui va dans l'ordre « fais-moi confiance », ça c'était actuellement ce que je vis, ça peut amener, et je me rends compte que ça amène un apaisement, c'est sûr, hein, et ce n'est pas juste un mantra, une habitude, mais vraiment, je sens Dieu, mais fais-moi confiance, ok, je te fais confiance. J'ai ma réponse, ok, je roule à gauche, ok, je te fais confiance, je ne reste pas à droite, je reste à gauche. Donc c'est un processus qui prend du temps, qui demande aussi de la persévérance, mais qui au final, et c'est là qu'on arrive à cette discerner la volonté, au final, c'est pour discerner la volonté de Dieu. Donc discerner la volonté de Dieu, think outside the box, un petit peu prendre du recul aussi, Et cette volonté de Dieu, elle ne nous est pas imposée de manière claire et limpide, en tout cas pas souvent. C'est pour ça qu'on a besoin de notre discernement. Et ça veut dire quoi, discerner? Je ne sais pas comment vous voyez ce mot. Moi, je le voyais des fois un peu un truc, on doit se creuser la tête. Puis ça, c'est dur, on a discerné, on a creusé. C'est donc quelque chose de difficile. Je ne sais pas comment vous, discerner la volonté de Dieu, c'est quelque chose de... C'est facile. C'est un exercice, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Ou c'est tac, je discerne, tac, c'est tout de suite clair. C'est facile? Oui? Non? Bof? Bof? C'est un peu un grand mot, hein, discerner. J'ai discerné la volonté de Dieu. Quand quelqu'un vient avec ça, des fois, ça peut aussi être un argument pour dire, ok, bon, ben... Ça doit être juste, il l'a discerné, lui. Hein. Nous, on n'a rien discerné, mais bon, je pense qu'il a une certaine capacité que je n'ai pas. Vous avez déjà vu ces gens qui viennent à nous, j'ai discerné la volonté de Dieu ici. Ça va un petit peu comme Dieu m'a dit, hein, mais voilà, ça peut des fois aussi être pris comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, simplement, dans le dictionnaire français, ça veut dire découvrir, sentir, ressentir, saisir, démêler, lire. J'ai lu la volonté de Dieu. C'est un peu plus facile, il me semble. C'est quelque chose d'un peu comme on lit la volonté de Dieu. Et l'utilisation dans la Bible qui est faite dans ce passage, le sens du mot grec traduit ici par discerner est de manière générale approuvé, ou bien parfois aussi traduit par éprouver, ou bien aussi essayer, ou bien aussi reconnaître. Vous voyez, il y a des éléments là, approuver. Donc c'est intéressant, la volonté de Dieu, elle se découvre. On doit la saisir, la ressentir, parfois aussi la démêler quand c'est confus, la lire, puis l'approuver, après l'avoir parfois éprouvé ou essayé. Donc c'est un processus qui aboutit finalement à notre adhésion. Je suis toujours surpris des fois d'avoir un peu une vision où certains disent, ouais, Dieu maintenant il dit ça, tac, on doit y aller, tac, et on se met dedans. On ne sait pas trop ce qui se passe. Alors parfois oui, des fois Dieu nous surprend, il nous fait tomber des trucs sur la tête, il dit, on est là, ok, je fais ta volonté. Mais souvent, c'est quand même un processus, il veut nous prendre avec. Parce qu'il sait bien que s'il ne nous prend pas avec, ce sera plus dur, nous, à l'appliquer. Moi, j'ai quand même tout le côté humain de Dieu. Des fois, il nous prend avec. Et ça prend du temps, on doit d'abord un peu lire, on doit l'éprouver, l'essayer. Et puis surtout, j'aime bien la volonté de Dieu, ce n'est pas notre volonté, c'est la volonté de Dieu. Et on doit dire maintenant, ok. Donc on doit discerner la volonté de Dieu, on va donc plus loin que juste la connaître, la découvrir, mais demande qu'on l'approuve, qu'on donne notre « ok ». On parle parfois de se soumettre, oui, mais c'est une soumission qu'on choisit librement parce qu'elle fait, elle fait généralement sens, hein, même si parfois Dieu peut nous demander des choses qui vont à l'envers du bon sens, mais c'est plutôt rare. En tout cas, c'est mon expérience, quand Dieu me parlait ou quand Dieu me parlait parfois par d'autres, c'est en général que ça résonnait dans quelque chose que j'étais déjà en chemin. Et c'était plutôt des confirmations que quelque chose qui allait totalement à l'encontre du travail de transformation que Dieu fait dans ma vie et qui me font avancer. Et parfois, j'ai besoin d'un éclairage spécifique dans certaines situations. Donc, nous arrivons ensuite à ces trois signes distinctifs de la volonté de Dieu. Que la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. La volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. C'est déjà un peu un filtre, il me semble, pour trouver la volonté de Dieu. C'est ce qui est bon ou ce qui est bien. Certaines traductions, c'est ce qui est bien. Et j'ai bien aimé dans le terme qui est traduit généralement ici par volonté, dans un verset, il est traduit par bienveillance. Il nous a prédestinés à être des enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. C'est le même mot qui est utilisé que la plupart du temps par sa volonté. Donc ce que Dieu veut pour nous, ses enfants adoptifs, son Église, c'est bienveillant. Et j'ai envie de dire, ce n'est pas malveillant, ce n'est pas méchant, c'est le contraire, hein. Ce n'est pas mal intentionné, ce n'est pas tordu, j'ai envie de dire. C'est bon, c'est bien. C'est selon les valeurs du royaume de Dieu, basé sur l'amour et la justice. Dieu est bon, on va le voir dans la semaine prochaine. Dieu est bon, point. Il est bon, et par nature, il peut être que bon, il peut être que ce que lui fait, c'est que bien. Et le deuxième point, cette volonté, est ce qui est agréable. ou c'est traduit des fois ce qui est agréé, ce qui lui plaît, ce qui lui est agréable. Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Qu'est-ce qui lui plaît? Qu'est-ce qu'il agrée? Moi, je vois un peu deux dimensions de l'agréable, un côté un peu émotionnel, c'est agréable, hein, c'est agréable. Et puis un peu le côté formel, il donne son agrément, c'est le même terme, il donne son OK. Et je pense qu'il y a un peu les deux dimensions, hein, peut-être un peu les deux, pour nous, les deux côtés du cerveau. Et Dieu se plaît à nous voir. Hein, on est ses créatures, il nous voit juste, nous sommes en paix avec lui, comme on l'a lu aussi avant, car il nous aime. Je pense que Dieu, pour lui, c'est agréable de nous voir rassemblés ce soir, par exemple, mais de nous voir chaque jour, de nous voir vivre. Et puis comme ce roi, Dieu aussi roi, Dieu met son agrément, son OK sur ce qu'il veut, et nous sommes invités à entrer dans ses projets agréés par Dieu. Et c'est quoi ces projets agréés par Dieu? Pour vous, c'est quoi les grands projets? On ne va peut-être pas parler des grands projets que Dieu agrée. C'est justice, ouais, là, c'est très large, hein, mais des projets humains sur Terre. OK? Ouais. Il a créé ce témoignage, ouais. On viendra après, le parfait, c'est le troisième. Hein. On viendra tout à l'heure sur le parfait. OK, c'est intéressant que tu le cites déjà maintenant. Ouais. Mais moi, j'ai mis son église, c'est son projet. Hein. Qu'on soit 10, 1000, méga church, 3000. 5, on était 4 des fois dans le groupe de maison pour les 100 jours. Il agrée ça. Point. Il agrée pas si on est, oh, vous êtes que 20, vous êtes que 25. Vous êtes mis, ouh, ouais, super, je vous agrée un petit peu plus, vous êtes 100 maintenant. Là, seul, là, vous êtes une, commencez à être une bonne église. Là. Non, c'est son projet, l'église. C'est son projet, l'église. Et il agrée, où deux ou trois sont rassemblés, je suis au milieu d'eux. Point. Ces créatures, nous, ils nous agréent. Bien sûr, à le péché, hein, le plan du salut est bien sûr là, mais on est ces créatures. Son plan du salut, ça, c'est ses grands projets. Ses enfants perdus qui reviennent à lui et qui l'adorent, ça, c'est ses projets qui donnent son agrément, etc. Après, bien sûr, il y a des choix plus personnels ou plus circonstanciels, la volonté de Dieu. Dieu peut aussi donner son agrément, ou alors... Il nous demande de choisir, car il nous fait confiance qu'on va choisir quelque chose qui lui plaît, qui lui est agréable et qui n'est pas forcément un choix unique ou un seul choix que Dieu valide. Hein, il y a par exemple le choix de ses grands choix, le choix d'un métier, le choix du mariage. J'ai mis choix d'un lieu de culte. Et c'était la volonté de Dieu qu'on déménage. Est-ce que c'était la volonté de Dieu qu'on fasse le culte à 17 heures? Peut-être vous êtes posé la question. Moi, j'ai l'impression que Dieu nous a dit, mais ça, c'est mon interprétation. Mais vous pouvez vous réunir quand vous voulez. Ce n'est pas forcément un choix que Dieu doit dire. OK. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre. Le rassemblement est le projet de Dieu. Oui, l'Église est le projet de Dieu. Mais de dire à 17 heures ou à 10 heures, ça, c'est des choix, j'ai envie de dire, qui nous donnent la liberté aussi et qu'il agrée. J'ai envie de dire, il agrée les chrétiens qui se réunissent. Ça, c'est son agrément. Maintenant, les horaires, pour moi, ce n'est pas forcément un agrément qu'on a besoin de Dieu. Après, on a le troisième, ce qui est parfait. Tu l'as déjà cité, Jean. Hein? Est-ce que ce qui est parfait existe sur Terre? Ben, je crois que ça n'existe pas. Hein. La perfection n'est qu'auprès de Dieu. Et c'est peut-être la chose qui nous pose le plus problème dans ce passage. Nous souhaitons être parfaits dans ce que nous faisons. Du coup, hein, quand on veut être parfait, c'est de manière générale, mais avec Dieu peut-être aussi, si on veut être parfait, soit on ne fait rien, ou soit on fait, on se culpabilise vite si ce n'est pas fait, si c'est pas parfait ou si ça ne se manifeste pas comme on se l'imaginait. On dit, ah, c'est pas parfait. Donc, ce n'était pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu, la volonté est parfaite. C'est que Dieu qui est parfait. Nous, on ne sera jamais parfait. Et le mot grec, c'est intéressant, traduit ici dans ce verset par parfait, il a été traduit dans d'autres versets par authentique. Hein? Être soi-même, être vrai. Ou bien complet. Avec tout ce que Dieu veut nous donner, hein, soit ce qui nous a été volé par le péché, qu'il a besoin de restaurer, soit ce qu'on n'a pas encore valorisé en nous, des dons qu'on n'a pas encore pu mettre au service. Dieu veut nous rendre complets. S'il nous manque des choses, il veut nous rendre complets. Une autre traduction, c'est être mature. Et la maturité, on le sait, ça passe par des épreuves souvent, par des obstacles, par des frustrations qui finalement contribuent tous à cette transformation, notamment notre intelligence. Et ce même mot grec est traduit aussi parfois d'être adulte. Donc pour moi, adulte, on peut dire beaucoup de choses, mais c'est être une personne responsable. Et aussi qu'ils savent prendre des décisions et les assumer. Ça fait aussi partie de ça. À un moment donné, prendre des décisions, être adulte. En conclusion, ces trois signes distinctifs de la volonté de Dieu sont directement liés aux attributs de Dieu. Dieu est bon. Dieu est agréable, il agrée, il nous agrée et il est parfait. Et laissons-nous donc transformer par le Saint-Esprit, c'est notre prière, c'est aussi notre liberté de le laisser faire ce travail en nous, afin de voir Dieu qui est invisible et de l'entendre par sa parole qui est inaudible pour discerner sa volonté et y adhérer dans nos choix, aussi bien personnels que communautaires. Donc on n'a pas besoin, j'ai déjà dit, mais je le répète, on n'a pas besoin d'être parfait. Seul Dieu est parfait pour faire la volonté de Dieu. Par contre, Dieu veut que nous voir authentiques, nous voir croître dans l'authenticité, dans la complétude. Non, ça ne se dit pas, complétude. Non, je ne crois pas. D'être complet, de nous voir mûrir, devenir adulte. La transformation est la volonté de Dieu, mais elle a besoin de notre « ok ». Ce n'est pas une transformation imposée, mais consentie, dès notre conversion, mais aussi quotidiennement. Certains disent « j'ai besoin tous les matins d'être renouvelé par le Saint-Esprit ». Moi, je pense que oui. En même temps, c'est comme un peu un processus. Je vois ce renouvellement, c'est comme tout ce travail de transformation qui nous fait devenir plus aimant, plus paisible, etc. Plus être bien aussi dans nos choix, etc. C'est un processus à long terme, mais c'est aussi tous les matins, parce que j'ai des fois l'impression qu'on peut facilement tomber dans les habitudes de ce monde-ci. Et on a besoin de chaque matin dire, mais voilà, renouvelle mon intelligence. Et c'est un peu ma conclusion. Et si on remplaçait nos prières, montre-moi ta volonté par transforme-moi par le renouvellement de mon intelligence. Parce qu'une telle prière, ça va contribuer finalement, comme on l'a vu dans ce passage, à comprendre la volonté de Dieu, à y adhérer, ou à l'approuver, et finalement à prendre nos décisions en conséquence. Et pour permettre à Dieu de nous transformer, on doit lui donner notre vie. On a besoin de donner ce sacrifice vivant, comme on l'a lu, saint, agréable et parfait. Ça, c'est notre part, lui dire « je te donne, pas seulement mon cœur, ma vie, mes pensées, pour que tu puisses le transformer. » Et on va maintenant prendre un chant tous ensemble, qui est un peu une réponse aussi au travers de ce chant, « Je te donne mon cœur », qu'on puisse aussi à travers ça redonner à Dieu ou donner notre cœur, qui on est, afin qu'il puisse continuer ce processus de transformation. Et peut-être que la volonté de Dieu, on va la lire ou la comprendre peut-être plus clairement. Elle va, parce que finalement, comme je l'ai dit, c'est tous des attributs de Dieu qui est bon, qui est parfait. En étant en relation avec lui, en lui donnant notre cœur, on arrive aussi à discerner, à comprendre cette volonté pour nous, personnellement ou aussi en communauté. Qu'on écoute ce chant, et si vous le connaissez, on peut aussi le chanter. Je crois qu'il est assez connu. « Je te donne mon cœur ». Seigneur, merci pour nos cœurs qu'on t'a donnés, qu'on t'a redonnés, pour cette partie de nous, mais pour notre corps, pour notre être entier, que tu accueilles, que tu agrées, que tu vois juste au travers du sang de Jésus. Merci parce que tu es bon et ta volonté est bonne pour nous et Tu nous aides à la comprendre, à la discerner. Tu nous aides à te suivre, à entrer, à adhérer à ce que tu veux pour nous, parce que tes projets sont bons, sont agréables, sont parfaits pour nos vies, pour notre Église. Amen. J'invite Christine à venir. Elle va nous partager aussi comment, dans son chemin et dans cette formation d'accompagnatrice spirituelle, elle a aussi vu et compris, d'une certaine manière, la volonté de Dieu pour elle. Alors là, je te donne la parole. Tu veux que je descende un petit peu?
Bonjour. Cela me fait plaisir de me retrouver ici. Ça fait un moment que je ne viens pas. C'est le culte des témoignages et missions. Peut-être que mon absence aussi est due à mon parcours d'études et qui n'en finissent pas. Mais j'ai du plaisir de vous partager ce que je vis par rapport à ce parcours. Stéphane m'a demandé de parler. Je ne sais pas si je vais dire que c'est un témoignage. Je préfère plutôt utiliser le mot partage. Parce que pour moi, un témoignage, ça mûrit. Et puis à un moment donné, on dit Dieu a fait quelque chose et je vais le partager aux autres. c'est pas parce qu'il ne fait rien dans ce que je fais. Il fait quelque chose, mais puisqu'il m'a été demandé, je me suis dit, il faut que je vous partage déjà ce que je vis. Stéphane a parlé de ma formation, il a parlé aussi de ce que je fais aujourd'hui. J'ai fait la théologie. Il y avait deux objectifs. Le premier, c'était que dans ma foi, j'ai été beaucoup édifié par les textes bibliques, mais il y en a d'autres qui étaient obscurés pour moi. Et ça créait des tensions. Et je me disais, il faut que je comprenne pourquoi il y a des textes que je ne comprends pas. Ce n'est pas en cohérence avec ce que j'ai comme image de Dieu. À côté de ça, j'avais aussi la volonté de faire l'université, ce qui n'a pas été possible pour moi quand j'étais au Rwanda. J'ai essayé de le faire une année. Je payais les frais moi-même, c'était compliqué, j'ai dû arrêter. Quand je suis venue en Suisse, j'avais toujours ce rêve de faire la formation universitaire. J'avais 35 ans, je venais de me marier. Je me suis dit, si je dois faire l'université, je vais d'abord m'occuper de nos enfants, et puis si je dois en faire quelque chose, ça ne va pas être dans d'autres métiers, je vais faire quelque chose pour servir Dieu. Mais je ne savais pas quelle forme que ça allait prendre. J'ai fait la théologie au terme de bachelor, mais je me suis dit, mais finalement, il faut que je regarde qu'est-ce qu'il y a comme métier ici en Suisse. Finalement, j'ai réalisé qu'il n'y en avait pas beaucoup. J'étais dans une église évangélique et je cherchais les métiers des femmes, il n'y avait pas grand-chose. J'ai dû adhérer à l'église protestante pour trouver quelque chose. Et le parcours n'a pas été facile. Il y a des portes qui s'ouvraient, ça s'est refermé. Finalement, mon cheminement ou mon parcours de recherche d'un emploi ou des métiers de l'église, et ça aboutit à ce que je fasse et aussi la formation pour l'accompagnement spirituel. Alors peut-être que je vais commencer par dire qu'est-ce que c'est. Vous pouvez peut-être penser, quand on parle de la spiritualité aujourd'hui, ce n'est pas forcément croire en Dieu. Ça va vous choquer un peu. Moi, dans mes pensées, je pensais que quand on parle de la spiritualité, ça renvoie à la foi en Dieu. Mais quand j'ai commencé la formation, comme en théologie aussi, il y a beaucoup des idées préconçues chez moi qui ont été en tout cas chamboulées, dans le sens où j'ai compris que la spiritualité ne renvoie pas forcément au fait qu'on croit en Dieu. Si je résume, je dirais que quand on parle de la spiritualité aujourd'hui, ça renvoie à tout ce qui pourrait donner sens à la vie de la personne. C'est-à-dire que tout le monde peut le faire. Ce n'est pas forcément des chrétiens, ce n'est pas forcément les musulmans, ce n'est pas forcément tous qui croient en Dieu, à un seul Dieu, comme nous. Mais tout le monde peut le faire, même les athées. Alors, je me suis dit, Seigneur, heureusement, que ce soit dans ce parcours de formation en accompagnement spirituel ou en théologie, je me suis dit, heureusement que j'avais rencontré le Seigneur avant tout ça. Si ce n'était pas le cas, j'aurais beaucoup de soucis de dire finalement qui est Dieu, en qui on pourrait mettre sa confiance et pour donner sens à sa vie. Alors, je pense que ça, c'était juste pour introduire qu'est-ce que j'ai pu rencontrer comme difficulté dans mon parcours. Et puis, ce qui m'a aidé, ce qui m'aide aujourd'hui, c'est de savoir qui je suis en Dieu et en Christ. Et de comprendre aussi que maintenant, avec ce parcours de formation en accompagnement spirituel, j'ai la conviction que c'est Dieu qui m'a ouvert cette porte. Pour le vivre, alors, dans mon stage, parce que dans la formation, on fait ce qu'on nous demande. Même tout le long de mes cours, je reste attentive à ce que Dieu peut me communiquer au travers de ce que je lis, ce que je fais comme activité, parce qu'on a été amené à faire le stage à l'hôpital au CHUV. Après, maintenant, je fais le stage dans les DMS. Alors, je me suis dit, Seigneur, aide-moi, conduis-moi pour comprendre qu'est-ce que tu veux que je fasse de cette activité. Je dirais, il ne m'a pas été imposé, mais je dois passer par là si je dois trouver un emploi. Je peux alors vous dire que ce que je vis dans tout cela, je le vis tout simplement parce que c'est comme une continuité de ce que je vis depuis que j'ai donné ma vie à Jésus. Par rapport à la volonté de Dieu, comme on vient de le voir, il y a un moment de ma vie où on a chanté tout à l'heure en disant que je donne tout à Dieu. Il m'est arrivé une fois quand j'étais au culte, il y avait un chat qui va ressembler un peu avec celui qu'on vient de voir. Et puis, je me suis dit, est-ce que même si j'ai donné ma vie à Jésus, je l'aime vraiment, j'ai envie de le suivre fidèlement, est-ce que vraiment dans ma conviction, j'ai tout donné, je suis prête à tout donner? J'avais une robe, c'est un peu drôle, j'avais une robe, je l'ai dit souvent, deux fois à Jean. J'avais une robe que j'ai achetée, peut-être que je pense c'est la moitié de mon salaire, tellement je l'ai aimée. À ce moment-là, quand j'étais au culte, tellement j'aimais cette robe. Et puis, les pensées m'ont venu comme ça. Je dis, est-ce que si on te demandait de donner cette robe-là, tu es capable ou tu es prête à le faire? J'ai fait comme ça. Je dis, Ça, c'était un exemple de dire, j'aime Dieu, j'ai de tout donné, mais je voyais qu'il y avait beaucoup de choses auxquelles j'étais attachée. Je n'étais pas totalement libre par rapport à ça. J'ai commencé à faire un travail sur moi jusqu'au moment où je me suis sentie totalement libre de dire, Seigneur, je suis prête. Je suis prête, je peux tout donner, je te donne tout. Sincèrement, c'est une prière que je fais tous les jours, je n'ai aucun problème avec ça. Et c'est cela qui me tient aujourd'hui à dire, le monde est comme on vient de le voir, on vit dedans en tant que croyant, en tant que chrétien. Il y a une façon de faire de ce monde, y compris cette vision de la spiritualité aujourd'hui. Mais moi, comme un enfant de Dieu, ce qui me tient, ce qui me permet de me positionner, c'est que je sais que je ne m'appartiens plus. C'est cette dépendance de Dieu qui me permet de vivre ce que je vis aujourd'hui. Dans mon stage, alors j'en reviens maintenant, je rencontre des personnes de différentes traditions et des personnes aussi qui ne croient pas absolument en Dieu. Alors, peut-être mon témoignage, je vais le résumer dans un seul mot. Pour moi, ma mission, en tant qu'enfant de Dieu, c'est une façon d'être en Dieu dans cette dépendance. C'est ça qui est ma mission, je la vis comme ça. Ce n'est pas quelque chose que je vais faire. Ça peut être, ce que je fais, c'est uniforme de ce que je vis dans cette dépendance. Mais ma mission à moi, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, à partir du moment où je me suis sentie prête à tout donner, à partir de ce moment-là jusqu'à maintenant, et le reste de ma vie, c'est de demeurer, de vivre dans cette dépendance de Dieu. C'est ma façon d'être dans cette dépendance qui constitue ma mission. C'est ce que je vis quand j'accompagne des gens. Accompagner, alors, Ça veut dire quoi? Dans ce contexte laïque où il ne faut plus aller parler de Jésus publiquement ou le dire à quelqu'un, c'est cette façon d'être. Je dis, Seigneur, maintenant je vais à mon stage, je ne sais pas qui je vais rencontrer, j'aimerais te demander d'être avec moi. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois me comporter? C'est ma façon d'être à côté de la personne que je ne connais pas. Une fois que je suis avec cette personne, peut-être comment ça se passe, il faut que je vous l'explique aussi. Je vais dans les EMS, je passe par les animateurs ou les infirmiers. Les infirmières, on me dit, je pose la question, soit on peut me faire des propositions, telle personne a besoin que tu l'accompagnes, elle a besoin d'être quelqu'un qui se met à l'écouter parce que peut-être elle est triste ou elle est comme ci, comme ça. Ou des fois, il n'y a pas de proposition, je dois aller toquer sur les portes. Alors on m'a dit, telle personne a des problèmes comme ça, je ne la connais pas. Forcément, de temps en temps, il y a une liste qui montre les traditions, les croyances des personnes. Comme ça, au moins, j'ai une idée de ce que je peux, sur quoi je peux m'appuyer pour parler ou aborder la personne. Des fois, il n'y a rien. On te dit, on ne sait pas. Alors, je dis, Seigneur, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais je m'appuie sur toi. Je ne peux pas dire qu'est-ce qui se passe. C'est cette façon d'être qui me guide à ce moment-là. De dire, Seigneur, aidez-moi, donnez-moi les mots et les paroles que tu juges importants et nécessaires pour les besoins de cette personne-là. Et il m'arrive, quand je n'ai aucune proposition, je prie et je commence à me balader dans les couloirs des EMS. J'arrive derrière la porte et je lis le nom de la personne. Des fois, je m'arrête, je fais comme ça pour toquer, je sens que ce n'est pas le bon moment. Et je laisse tomber, je pars. Il y a des moments où j'arrive et sans comprendre pourquoi, je me sens dirigée pour aller vers là. Et tout se passe bien, je me dis, c'était voulu. Peut-être deux témoignages. Une fois, je suis entrée dans une chambre d'une personne, comme ça. Une fois, je suis allée, je ne me suis pas sentie prête pour y aller. Une fois, j'ai compris que c'était OK. Et puis la personne, elle m'a dit, laissez-moi, j'ai envie de me reposer, je suis partie. À un moment donné, je me suis sentie de nouveau interpellée pour y retourner. Mais cette fois-là, ce n'est pas moi qui l'ai senti. Il faut que je me souvienne comment c'est passé. Je suis passée à côté de sa chambre, elle était en train de crier en demandant au secours. Je suis allée la voir. On a passé de bons moments. Je ne peux pas entrer dans les détails. Mais finalement, il y a les liens qui se sont créés. Finalement, j'ai été amenée à être à son écoute. Elle m'a partagé ce qu'elle vit. Jusqu'au moment où maintenant, on dirait qu'on est devenu amis. Elle me dit ce qu'elle ne peut pas partager aux autres. Et là, je me dis, Seigneur, je te remercie. Parce que quand c'est le moment, il me le fait savoir. Il y a d'autres personnes que j'ai rencontrées une fois. J'ai été amenée à y discuter avec. Et puis, ils ont demandé la prière, par exemple. On a prié ensemble. Ou bien, j'ai été aussi amenée à prier pour des personnes qui n'ont rien demandé parce que leur situation m'a vraiment touchée ou m'a interpellée. Et quand je retourne les voir, il y a des améliorations qui me touche énormément. Je dis, Seigneur, tu es allé dans tout ce que tu m'as fait faire, je vois que tu es allé soit par la prière, soit par des échanges, ou soit par la présence. Après, je me suis dit, peut-être pourquoi, est-ce que c'est une volonté de Dieu que je fasse ce que je fais ou que ce n'est pas la volonté de Dieu? Ça, je peux... Il m'est venu ce verset quand Stéphane m'a demandé de parler de ce que je fais. C'est en Philippiens, chapitre 2, verset 13. Il est écrit, « Car c'est Dieu qui fait en vous et le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. » Je me suis trouvé dans ce... Dans ce parcours d'accompagnement spirituel, je ne savais pas qu'un jour j'allais me trouver dedans. Mais maintenant, je comprends que c'est là où se trouvait ma place. Je me suis dit, maintenant que ce vouloir est là et que je sens que finalement c'est quelque chose qui me correspond. Parce que quand j'ai fait la théologie, dans ma tête ou dans ma volonté, je voulais faire un travail qui me met en contact avec les gens pour discuter ou parler de la foi. Où je pourrais peut-être apporter quelque chose, mais aussi recevoir quelque chose de ces échanges. Maintenant, ce que je vis, j'ai l'impression que ça répond à ce besoin. Après, oui, je pense que je résumerai en terminant que ce que je fais aujourd'hui, c'est ma façon d'être dans cette dépendance de Dieu et puis comprendre ou discerner la volonté de Dieu dans ce que je fais, c'est être à l'écoute. À l'écoute de moi-même d'abord, parce que, comme Stéphane le disait tout à l'heure, notre volonté en nous, ou ce qu'on veut faire forcément, ça prend aussi une grande place en nous. Et ce n'est pas toujours facile de prendre des distances avec mes envies ou ma volonté à moi pour comprendre ou discerner quelle est la volonté de Dieu dans ce que je fais. Donc, je dois m'écouter d'abord pour pouvoir écouter Dieu. Et puis, c'est cette dépendance qui me permet aussi être à l'écoute de l'autre. Être à l'écoute de l'autre pour l'accompagner dans ce qu'elle ou il est, en m'appuyant sur ce que Dieu me communique à ce moment-là. C'est ça, c'est en quoi que consiste l'accompagnement spirituel que je suis en train de vivre. Je vous remercie.
Merci Christine. Tu es en train de terminer, c'est un casse que tu fais. Tu es en train de finir de le rédiger. Donc elle est quasiment à la fin. Donc voilà. Donc c'est pour après avec aussi le papier nécessaire. Continuer. Merci beaucoup aussi Christine pour ce témoignage. Je propose peut-être qu'une ou deux personnes prient pour elle pour ce que d'abord j'avais demandé parce que je suis aussi au réseau et puis vous savez certainement aussi qu'elle a été engagée dans l'armée suisse pour être aumônière dans l'armée suisse. Alors là, ce n'est pas encore terminé. Elle ne préférait pas en parler ce soir parce qu'il y a aussi un peu la hiérarchie. Il faut un peu en discuter. Il faut arriver au bout pour peut-être en parler aussi plus librement. C'est un peu un autre cadre. Mais donc, elle a aussi cette envie d'accompagner des soldats. Et là, c'est aussi la même situation à l'armée suisse. Il y a aussi des amis pasteurs qui sont aumôniers. Ben, c'est un accompagnement spirituel, c'est pas un accompagnement chrétien, c'est un accompagnement spirituel. L'armée suisse est maintenant sous l'autorité de la Confédération, c'est plus les églises qui ont des mandats, mais c'est la Confédération directement. Et la Confédération veut pas avoir des aumôniers protestants, catholiques, évangéliques, musulmans. Ils veulent des aumôniers qui sont capables d'écouter, de parler aux gens de toutes les religions. Donc ça demande une certaine ouverture, je pense aussi une certaine recul. J'ai bien aimé s'écouter soi-même, écouter Dieu pour pouvoir aussi écouter l'autre au-delà de ses croyances et au-delà de sa spiritualité qui n'est pas forcément la même que nous quoi aussi.